Vous êtes sur RTL.
RTL Midi, Amandine Bégaud, Pascal Pro.
12h30, 14h30, 2h d'infos, de débats et d'opinions avec les auditeurs. Bonjour à tous, l'info avec Amandine, tous les jours également jusqu'à 13h. Bonjour Amandine.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. Et à la une, donc l'effroi après la publication du rapport Sauvé, ces chiffres terrifiants, 330 000 personnes victimes d'abus sexuels au sein de l'Église catholique de France, et ce depuis 1950. On découvre par ailleurs que 15% des femmes ont été agressées sexuellement avant leurs 18 ans, 15 sur 100. Dans ce journal également, une prise d'otage en cours à la prison de Condé-sur-Sarthe, des poubelles qui envahissent la mer à Marseille et puis des banques qui fusionnent leurs distributeurs de billets.
À 12h40, le rapport Sauvé, ses conclusions accablantes. Le père Amar sera avec nous, et à 12h50, immersion auprès des électeurs à 6 mois du premier tour de la présidentielle. Et
justement, c'est notre question du jour sur RTL.fr. Vous intéressez-vous aux candidats à 6 mois de ce premier tour? Vous dites oui à 48%, non à 58%. La météo avec vous, Peggy Broche, bonjour.
Bonjour Amandine.
C'est bien automnale.
Et oui, la perturbation pluvieuse, elle traverse le pays actuellement. Elle va gagner les régions de l'Est cet après-midi. Ça reste pluvieux également dans le Sud-Ouest. Et la Méditerranée est épargnée, même si le temps se couvre au fil des heures avec quelques gouttes possibles vers les Bouches-du-Rhône, mais rien à voir avec hier. Et puis ça se gâte également dans le Sud-Ouest de la Corse avec des averses orageuses. Et dans l'Ouest du pays, ce qu'on appelle un ciel de traîne entre nuages, éclaircies, averses, du vent, voire un coup de tonnerre au nord, et des températures en dessous des saisons, des normales de saison, de 15 à 18 au nord, 17 à 22 au sud.
Merci, à tout à l'heure.
RTL Midi. Aux personnes qui ont été victimes de tels actes de la part de prêtres, de religieux, de religieuses ou d'autres personnes dans l'Église, j'exprime ma honte, mon effroi. Mon désir en ce jour est de vous demander pardon. Pardon à chacune et à chacun.
La honte, l'effroi, ces mots, ce sont ceux du président de la Conférence des évêques de France à l'issue de la présentation tout à l'heure du rapport Sauvé. Il faut dire que les chiffres sont glaçants, effrayants. Bonjour Marie Guerrier.
Bonjour.
On parle de 330 000 victimes.
Oui, 330 000 victimes de prêtres, de religieux et de laïcs en mission dans l'Église depuis les années 50. Ça représente 6% des violences sexuelles commises sur mineurs en France, juste derrière les violences dans le cadre familial et amical, mais devant le milieu scolaire, les centres de vacances, le sport, à l'école publique. En comparaison, on est à 141 000 victimes estimées. Pour Jean-Marc Sauvé, président de la commission d'enquête, les chiffres accablants ne peuvent pas rester sans réponse.
Il faut que l'Église catholique s'empare de, à la fois, nos analyses, l'état des lieux, les propositions, et qu'elle prenne les mesures qui s'imposent. C'est pas parce que notre mission prend fin qu'on tourne la page et que tout s'arrête. Non, j'ai plutôt l'impression que c'est un nouveau commencement.
Et parmi les recommandations de la commission, que l'Église reconnaisse sa responsabilité et indemnise les victimes.
Marie, la commission a enquêté donc sur les abus commis au sein de l'Église, mais pas seulement. On découvre que 15% des femmes ont été agressées sexuellement dans leur enfance. Ça fait plus d'une sur six, c'est énorme.
Oui, c'est l'autre enseignement qui ressort de la vaste étude commandée à l'INSERM par la Commission. Une étude dans la population générale. 5,5 millions de Français de plus de 18 ans ont subi des violences sexuelles. Et donc ce chiffre, 14,5 à 15% des femmes. Et pour les hommes, c'est 6,4%. Et quand on regarde la population majeure, eh bien ça voudrait dire 10%.
10%, un adulte sur 10 donc victime au cours de son enfance. Merci à vous Marie Guerrier, donc sur place pour la remise de ce rapport Sauvé.
Ce chiffre de 15% des femmes a été une déflagration dans les conférences de rédaction ce matin. 15% des femmes sexuellement agressées dans leur enfance. À 12h40, pour le premier débat d'RTL Midi, nous en parlerons avec le père Amar, qui est prêtre dans les Yvelines.
Dans l'actualité également, cette prise d'otage en cours à la maison d'arrêt de Condé-sur-Sarthe. Bonjour Guillaume Chies.
Bonjour.
Deux gardiens de prison ont été retenus, l'un d'eux a été libéré.
Oui, on vient de l'apprendre. La surveillante qui était retenue a été relâchée il y a quelques minutes. Elle n'est pas blessée, mais choquée et prise en charge par des équipes médicales. L'autre, un homme blessé à l'œil droit, est enfermé dans une cellule avec le détenu. Le preneur d'otages de 33 ans a été condamné en 2017 à une peine de prison à perpétuité. Il est décrit comme une personne ultra-violente, condamnée pour plusieurs viols et tentatives d'homicide. Ce détenu venait d'intégrer la prison de Condé-sur-Sarthe, présentée comme la plus sécurisée de France. il y a 3 semaines. Une équipe d'ERIS spécialisée dans l'intervention en milieu pénitentiaire devrait arriver sur place dans les minutes qui viennent.
Guillaume Chies du service police-justice d'RTL. Un corps retrouvé ce matin dans les Ardennes. Il pourrait s'agir de cet étudiant de Polytech Lille disparu samedi soir lors d'un week-end d'intégration à Signy-l'Abbaye. Un appel à témoins avait été lancé dès hier. À Marseille, fin de l'alerte météo et c'est ce midi la pollution qui inquiète avec les violentes intempéries et la grève des éboueurs. Des centaines de tonnes de déchets se sont retrouvées dans la mer. Étienne Baudieu, vous avez pu constater l'ampleur des dégâts sur Épluchure Beach.
Oui, Épluchure Beach, hein, qui n'a jamais aussi bien porté son nom qu'aujourd'hui. C'est une des plages du Prado qui se trouve à l'embouchure de l'Uvonne, un fleuve qui traverse de nombreuses communes, principalement entre Aubagne et Marseille. Et à chaque épisode orageux, le fleuve charrie sur son passage tous les déchets accumulés sur ses berges. Benoît fait partie de la vingtaine de bénévoles qui se sont spontanément arrêtés ce matin pour ramasser, en particulier les milliers de canettes qui jonchaient la plage.
On dirait une déchetterie à ciel ouvert. Comme il y a la grève des poubelles aussi actuellement, il y a des poubelles qui ont dû échouer ici. Quand on voit l'état... C'est désolant.
Alors pointé du doigt la métropole en charge de la collecte des déchets et qui avait annoncé fièrement la semaine dernière la fin de la grève, Christine Juste, l'adjointe à la mairie en charge de l'environnement, ne décolère pas.
On nous a menti, la grève n'est pas finie. Il y a des secteurs où les poubelles du premier jour sont toujours là. Là, c'est hors norme étant donné les montagnes de déchets accumulés et qui n'ont pas été collectés avant la pluie d'hier.
La crainte maintenant, c'est que les détritus emportés au large ne reviennent souiller toute la côte alors que le Mistral devrait se lever.
Reportage signé Étienne Baudu à Marseille pour RTL.
À propos d'écologie, ce nouveau bilan de l'éolien en France.
Et il représente désormais près de 8% de la production électrique. C'est mieux qu'il y a 2 ans, on était à un peu plus de 6%. Mais loin, très loin des objectifs. Sophie Jousselin, en fait, le problème des éoliennes, c'est que tout le monde trouve ça bien sur le papier, mais personne n'en veut dans son jardin.
Oui, c'est un peu ça. Le problème, c'est le foncier, le manque de terrain pour planter les éoliennes. Il y a des recours presque systématiques contre chaque nouveau projet. Les critiques, on les connaît, hein. C'est moche, ça défigure le paysage, ça fait du bruit, ça tue les oiseaux. Mais si on veut arriver à l'objectif de 20% d'éolien en 2028, il faudra ajouter 6000 nouvelles éoliennes aux 8000 déjà existantes. Barbara Pompili, la ministre de l'écologie, tout en reconnaissant des abus dans le passé, a annoncé ce matin que les projets devront désormais être mieux préparés en collaboration avec les autorités locales et les riverains pour déterminer des lieux d'implantation acceptés de tous et pour limiter l'impact des éoliennes. Une fois installées, les lampes qui signalent leur présence aux avions et qui flashent la nuit vont être orientées vers le ciel. Et à partir de janvier prochain, le bruit des éoliennes sera contrôlé. Celles qui seront trop bruyantes seront arrêtées.
Explication signée Sophie Jousselin. Les syndicats dans la rue aujourd'hui de son rassemblement sont organisés un peu partout en France pour protester à la fois contre la réforme de l'assurance chômage, mais aussi pour réclamer l'abandon de la réforme des retraites. À Paris, le cortège partira de la place de la République à 14h, direction Opéra. À Toulouse, ils étaient 3000 ce matin. Parmi eux, Marc, salarié chez Safran, l'un des sous-traitants d'Airbus.
On manifeste parce qu'il nous semble que nous, salariés, on a fait beaucoup d'efforts pendant la crise sanitaire et que c'est nous qui payons la crise pendant que les patrons et les grands groupes prennent les aides du gouvernement, donc l'argent de nos impôts. Toujours des dividendes pour les actionnaires, mais on a gelé les salaires, on a plafonné participation et intéressement pour les salariés. Il y a beaucoup de salariés qui sont partis au chômage et aussi pour lutter contre la réforme de l'assurance chômage et surtout avant la pandémie, vous savez très bien qu'on était dans la rue contre la réforme des retraites et on reparle de plus en plus de cette réforme des retraites.
Des propos recueillis pour RTL par Patrick Hisson. On vous parle régulièrement de ces distributeurs de billets qui ferment. On en parle souvent, Pascal.
Bien sûr.
Eh bien, 3 banques, BNP Paribas, Crédit Mutuel et Société Générale, ont décidé de mutualiser leurs DAB. C'est comme ça qu'on appelle ces distributeurs. Bonjour Martial Liu.
Bonjour.
Concrètement, qu'est-ce que ça va changer pour nous, utilisateurs ?
Alors, actuellement, si vous faites plus de 2 ou 3 retraits dans un distributeur qui n'appartient pas à votre banque, vous payez des frais. Mmh. Et d'ailleurs, le dernier baromètre de Panora Bank montrait que ces frais avaient beaucoup on dit 10, 23% de hausse parfois ces derniers mois. Donc quand les 3 réseaux auront fusionné leurs distributeurs, sans doute à partir de 2023, vous n'aurez plus de frais quand vous ferez un retrait à la Société Générale, à la BNP, au Crédit Mutuel, au Crédit du Nord ou au CIC. 15 000 automates actuellement en France. Ça, c'est pour le côté positif,
ah,
on va dire.
Parce que,
bah oui, il y a l'autre enjeu qui est d'accélérer la réduction du nombre de DAB sur le territoire. Dans les rues commerçantes où vous avez parfois les 3 banques côte à côte avec un distributeur chacune, l'idée, c'est bien sûr de n'en laisser qu'un seul. Mais les trois groupes s'engagent aussi à mieux aménager le territoire en laissant toujours un distributeur actif dans les toutes petites villes. L'an dernier, on a retiré 1500 DAB sur les 50 000 qu'il y a dans le pays. Le Covid a accéléré le paiement sans contact par carte bancaire et on a moins besoin d'argent liquide aujourd'hui. Vous savez combien on fait de retrait aux distributeurs désormais par mois ?
Deux.
Moins de 2, 1,6. Ah oui. Et oui, c'est très peu.
Merci le DAB, beaucoup. Moi le ça me DAB. Fait penser à Michel Audiard, le DAB, mais bon, si vous me permettez. Dis-moi DAB, ça irait chercher dans les combien.
Et puis RTL vous le révélait dès ce matin, Bernard Tapie aura bien droit à une procession dans Marseille, entre le Prado et le Stade Vélodrome, ce sera jeudi. Son cercueil sera ensuite présenté sur le parvis du stade pour que le public puisse venir se recueillir.
Il est 12h40, thème qui va nous intéresser et qui effectivement nous a glacé ce matin, le rapport Sauvé et ses conclusions accablantes, le père Amar, prêtre dans les Yvelines, sera notre invité dans une seconde.
Au 32-10, RTL vous donne la parole.
50 centimes la minute.
RTL Midi, avec Amandine Bégaud et Pascal Pro.
Cet effroi, je le vis en moi, je le porte en moi, il m'habite depuis que j'ai 13 ans. Sauf que là, il est multiplié par 330 000. Pour vous, c'est un chiffre. Pour moi, c'est quelque chose en moi qui est d'une douleur inouïe. Je crois qu'aujourd'hui est historique, parce qu'on ne pourra plus nous dire qu'on salit l'Église, qu'il faut tourner la page, que c'est pas si grave que ça, et puis c'est du passé, et puis aujourd'hui, il n'y en a plus. Voilà. On ne pourra plus nous dire ça. C'est plus possible.
Véronique a été abusée par un prêtre à l'âge de 13 ans. Elle est, vous l'avez entendu, l'une des 330 000 victimes répertoriées par la Commission Sauvé. 330 000 depuis 1950. Les chiffres rendus publics ce matin sont accablants. Le rapport évoque un phénomène massif, couvert pendant des décennies par le silence. Marie Guerrier, vous êtes toujours avec nous. Hein. C'est vous qui suivez ce dossier pour RTL. Avec nous également le père Amar, prêtre dans les Yvelines. Bonjour. Et merci
bonjour
d'être...
Pascal Pro, bonjour Amandine.
Merci
bonjour
d'être en direct dans RTL Midi. Votre réaction d'abord peut-être face aux conclusions de ce rapport, de cette commission et ce chiffre, 330 000 victimes.
Je suis consterné. Je suis consterné parce qu'un prêtre, ça ne devrait pas être ça. Et je pense à l'immense courage des victimes. Qui en fait, ce ne sont pas des victimes, enfin pas juste des victimes, ce sont des survivants. Comment ils ont pu rompre la chape de silence? On n'a pas su les voir, on n'a pas su les entendre, on n'a pas su capter leurs signaux. Les chiffres sont accablants, vous le disiez. Et moi, je
n'a pas
de
su
terrain.
Les voir. C'est là que, pardonnez-moi de vous interrompre, monsieur Amar, mais la responsabilité de l'Église, les gens savaient, la hiérarchie de l'Église savait. Quand vous dites on n'a pas su, on n'a pas voulu le dire, on n'a pas voulu le voir. Mais c'est évidemment, le film Grâce à Dieu, d'ailleurs, de François Ozon, est très
et Spotlight,
éclairant
ouais,
là-dessus.
Les deux, oui. Figurez-vous
c'est
que
ça,
regardé...
ce que posent ces chiffres-là. C'est que l'Église savait.
Figurez-vous, Pascal Pro, que j'ai voulu revoir une nouvelle fois Grâce à Dieu hier, pour comprendre à nouveau. Parce que je suis un peu comme la personne que vous avez interrogée au début. Moi aussi, j'ai des visages, j'ai des noms, en fait, derrière tout ça. Et je pense à ces personnes qui ont été violentées, abusées, et j'admire leur courage. J'admire leur courage, vraiment, vraiment. Mmh. Et en fait, je vais vous dire, j'ai même honte pour mon Église, en fait. J'ai honte, en fait.
Et les catholiques aussi peuvent avoir honte, d'ailleurs, de cette période-là. C'est le sujet, me semble-t-il, principal. Comment la hiérarchie de l'Église a-t-elle pu ne pas parler?
C'est-à-dire que c'est la trahison dans la trahison. Trahison d'abord des consacrés et des prêtres, parce qu'ils ont donné leur vie pour les autres, et là ils ont trahi leurs engagements. Puis la deuxième trahison, c'est de ceux et celles qui ont été en responsabilité depuis 1950. Ça explique aussi vos chiffres. Pourquoi les chiffres sont très nombreux, c'est qu'on est sur 70 ans. De toute façon, il y aurait qu'un seul cas, ça serait déjà dramatique. Hein. Ce qui me touche, c'est que un pédophile, c'est déjà dramatique. Mais un prêtre prédophile, ça c'est scandaleux. C'est scandaleux.
Alors la commission et la commission Sauvé met en garde hein, parce que alors le nombre d'abus sexuels a commencé à diminuer à partir des années 80. On avait beaucoup de témoignages qui dataient des années 50, 60, 70. Puis on voit la courbe baisser de manière importante dans les années 80, 90. Et puis attention, dit la commission, parce que là la courbe elle a cessé de baisser et on est sur
c'est vrai,
un
il
plateau.
Parle de plateau exactement.
Oui,
le plateau.
Et donc il y a encore des abus. Jean-Marc Sauvé dit attention, ça n'est pas derrière nous. Donc d'où l'importance vraiment d'ouvrir les yeux et de prendre des mesures. Alors il y a d'abord les mesures pour le passé hein, que recommande la commission Sauvé, reconnaître la responsabilité collective de l'Église, on en a parlé à l'instant, et puis indemniser les victimes, ça va être un autre point important dans les mois et les années qui viennent, et puis prévenir hein, tout abus qui pourrait encore survenir, alors notamment en changeant le mode de gouvernance hein, de l'Église, dit la commission Sauvé. On pourrait dire en fait en faisant descendre de son piédestal le prêtre, l'évêque et voilà, et puis on change un peu la manière de faire. Il y avait un témoignage très fort ce matin de François Deveau, vous savez, de la Parole libérée. Oui. Après l'affaire Prénat, évidemment on avait beaucoup entendu François Deveau, et ce matin il dit il faut une réforme énorme de l'Église. Il va même jusqu'à dire un Vatican III.
Père Amar, comment on fait concrètement, pardonnez-moi, pour que ça n'arrive plus en fait?
Oui, j'ai entendu la colère de François Deveau ce matin. C'est le signe de sa réelle souffrance, de lui et de tant d'autres. Je la reçois. Je relève quand même une chose, c'est que ce soit les évêques comme les personnes victimes, on est tous d'accord sur un point. C'est la qualité du travail de cette commission et sa crédibilité. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui, dans la douleur, dans les larmes, un instrument très précieux, très utile pour avancer. Alors pour répondre à votre question, Marie, moi j'ai entendu parler de choses assez précises. J'ai entendu parler de la création d'un tribunal pénal canonique national qui permettrait justement d'externaliser un peu les choses, parce que parfois le prêtre, il est en fait sous la responsabilité d'un évêque qui est à la fois son chef et son père, voyez, et donc là aussi on va externaliser. J'ai entendu parler de la poursuite de l'écoute des personnes victimes, j'ai entendu parler d'une aide financière qui sera jamais une indemnisation, parce qu'on peut pas indemniser la souffrance, elle a pas de prix.
Il faudrait des millions et des milliards, oui.
Mais exactement, ça n'a pas de prix. J'ai entendu parler d'un engagement à la construction d'un lieu mémoriel. J'ai entendu parler de choses précises.
Monsieur Lamy, ce que je vous propose, puisque le temps nous est imparti, c'est de prolonger cette conversation durant le débat avec les auditeurs. Et vous pourrez échanger avec eux. Je remercie également Marie Guerrier. Marie, on est d'accord que c'est le cardinal Ratzinger qui deviendra le pape Benoît XVI, qui a initié ce dossier de la pédophilie dans l'Église.
Oui, c'est le premier hein, qui en a vraiment parlé et qui avait dit qu'il fallait regarder les choses en face. Son prédécesseur, Jean-Paul II, voilà, avait mis pas mal de dossiers sous le tapis. Et oui, c'est Benoît XVI qui a initié ce mouvement.
Merci beaucoup, Marie Guerrier. Deuxième débat dans une seconde. Nous sommes à 6 mois de la présidentielle.
Eh oui, tout juste.
Vous avez fait votre choix, déjà?
Oh,
c'est
encore.
Comme les cadeaux de Noël. Est-ce qu'on a fait son choix ou pas? À tout de suite.
RTL Midi avec Amandine Bégaud et Pascal Praud.
Dimanche prochain, donc 10 octobre, nous serons à 6 mois, jour pour jour, du premier tour de l'élection présidentielle. Est-ce que vous y pensez déjà, cette présidentielle? Quelles sont vos préoccupations?
Intéressé ou pas, fixé ou pas, quelles sont vos préoccupations?
À 6 mois du premier tour de la présidentielle, vos envies, vos espoirs, vos inquiétudes également.
À 6 mois, donc du jour J, parole aux électeurs. Depuis ce matin, RTL s'intéresse à vos attentes pour cette présidentielle, à vos préoccupations. Sont-elles ou non en décalage avec le débat politique? Quid des sondages dans tout ça? C'est le deuxième débat d'RTL Midi. Bonjour William Galibert.
Bonjour.
Alors vous êtes rendu pour RTL dans la commune d'Emerin, 3200 habitants près de Lille. Ce n'est pas dû au hasard parce qu'Emerin, en fait, c'est la France en miniature.
Oui, Emerin a voté exactement en 2017 au premier tour, comme le reste de la France. Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen, François Fillon ont tous eu le même score nationalement qu'à Emerin.
Et qu'est-ce qui vous a le plus frappé en discutant avec ses habitants?
Alors le plus frappant, c'est que j'ai croisé des gens qui sont très au fait de l'actualité, qui suivent de très près les choses, mais qui en même temps ont un regard totalement désabusé sur la politique et sur la présidentielle en particulier. Elle ne fait pas rêver cette présidentielle, elle ne fait pas espérer, elle fait soupirer. Mais quand je vous dis qu'elle fait soupirer, c'est qu'elle fait littéralement soupirer. Je vous le prouvez, pardon, avec Jean-Louis et Patrick, croisés donc dans les rues d'Emerin. Question simple, est-ce que 2022 peut changer quoi que ce soit?
Changer, on verra bien quel sera le prochain président. Mais bon, là, maintenant, qui sera capable de... j'en connais pas beaucoup.
J'avoue franchement, j'ai toujours voté. Hein. Même là, les dernières élections, j'ai voté. Là, il n'y a pas de problème. Mais là, je suis un peu déçu. Il se passe plus rien. Hein.
C'est pas sérieux. Enfin, qu'ils se mettent d'accord aussi. Non, des primaires, pas de primaires, les adhérents, pas les adhérents. Et puis dans 8 jours, on a changé d'avis, tout compte fait, ce serait mieux de faire autrement.
Vous suivez bien quand même.
Bah je suis, oui quand même. Mais bon, il arrive un moment, bah, c'est tout. Hein.
Vous nous aviez prévenu.
Oui, ça soupire beaucoup quand on parle présidentiel. Voilà, sentiment pour l'instant que ça donne autant envie qu'un rendez-vous chez le dentiste, ce vote dans 6 mois. Ensuite, sur le fond, les sujets qui sont revenus spontanément, rien d'étonnant, mais des thèmes très présents. Le coût de la vie, les prix de l'énergie, la fermeture des commerces de centre-ville. À Emmerin, par exemple, la dernière boulangerie a fermé il y a 6 mois. Ça a beaucoup marqué les habitants. Et puis l'immigration et aussi l'autorité, la fermeté. Exemple avec ce témoignage de Patricia, ancienne patronne de Bar Tabac.
On n'est pas assez ferme. Moi, je crois qu'en France, on manque de fermeté pour beaucoup de choses. On laisse faire, comme là, vous voyez à Paris, le bois du crack, là, c'est normal. Vous voyez les gens, dans quoi ils vivent. Tiens, mon nana, tiens. Voilà. Ils agressent les passants pour avoir un peu d'argent, pour acheter une dose, tout ça. Moi, je dis qu'on est dans un drôle de monde, quoi. Ouais. À chaque fois que je vais quelque part, qu'on parle un peu de tout, quoi. Bah, là, on parle souvent qui va être président, qui va se présenter, tout ça. Et souvent, la discussion, elle tourne sur l'immigration et la fermeté, hein. Le manque de sécurité.
Hein. L'écologie, un peu moins.
Bah moi, je me sens pas concernée par l'écologie du tout. Du tout.
Zemmour, vous entendez, vous avez écouté déjà ce qu'il dit, ce qu'il fait.
Il est inquiétant. Il me fait peur. Il est inquiétant. Bon, c'est un journaliste, hein. Il a la critique facile. C'est un journaliste, hein. Excusez-moi, vous êtes journaliste, mais bon. Non, je sais pas, il me fait peur. Hein. Déjà, physiquement, malheureusement, il a pas été gâté par la nature. Ses propos m'inquiètent quand même. Ça m'inquiète, ouais.
Voilà, alors tout ça n'a pas de valeur scientifique.
Non, c'est...
Hein? Oui, mais en même temps, c'est toujours formidable d'écouter les gens. C'est formidable parce qu'il y a un résumé chez cette femme, beaucoup de gens peuvent se retrouver dans ce qu'elle a dit.
Voilà. Et peut-être que la voisine de Patricia m'aurait dit autre chose, et c'est aussi pour ça que RTL...
Sur l'écologie, voilà, notamment, par exemple, elle dit, c'est terrible d'ailleurs, elle dit, moi je me sens pas concerné par l'écologie. C'est peut-être la phrase, je trouve, la plus forte, parce que je pense que beaucoup de gens ne se sentent pas concernés par l'écologie, parce qu'ils seront plus concernés par le rodéo devant chez eux avec un jeune qui est sur sa moto et
qui les empêche de dormir. Et là, on n'est pas dans un quartier sensible, William, il faut le dire.
On est collé à Lille, dans un petit centre-bourg avec 3000 habitants, la pharmacie, la poste, et ces questions qui ne sont pas... Ouais, elle me le disait d'ailleurs, on n'est pas directement parfois concerné par l'immigration, par exemple, mais on voit bien ce qui peut se passer à Lille ou les images qu'on en a de manière un peu plus lointaine.
Alors, elle vous parlait d'Éric Zemmour, enfin, vous l'avez interrogé dessus. On parle beaucoup de ces sondages ces derniers jours. Et quand on entend vos électeurs, en tout cas ses habitants, on se dit qu'il y a peut-être un petit décalage avec ce dont on parle. Écoutez Adélaïde Zulfikarpazic, pardon, la directrice du département Opinion BVA, juste sur ce sujet.
C'est trop tôt. On voit bien que l'offre politique n'est pas du tout encore stabilisée. Elle commence à se dessiner, notamment à gauche. On y voit plus clair depuis la primaire écolo avec la candidature de Yannick Jadot. Mais tout n'est pas encore fait. Et à droite, on n'a pas encore le candidat LR. On peut commencer à travailler sur des hypothèses. On peut commencer à regarder quelles sont un petit peu les grandes tendances qui se dessinent. Mais il est beaucoup trop tôt pour se projeter sur le premier tour de la présidentielle dans une perspective de pronostic, on va dire.
Pas de perspective de pronostic pour l'instant, on a envie de se dire à quoi ça sert, mais bon.
Et il faut bien faire des photos à un instant T, mais on sait que ces photos ne sont pas les photos de l'arrivée.
Merci William Galibert. Vous allez retourner là-bas ?
On va y retourner très régulièrement.
Ça serait intéressant, je trouve, de suivre l'évolution.
C'est le but, jusqu'au mois d'avril, aller interroger ces gens et voir la diversité aussi des témoignages qu'on va trouver là-bas à Emmerin, à 3 minutes de Lille.
On pourrait aller un jour faire les auditeurs. Ça serait intéressant de rester dans cette petite ville. 3000 habitants, hein, vous avez dit. Merci Amandine. Dans un instant, ce sera les auditeurs ont la parole avec le sujet du jour. Bien sûr, on sera avec le père Amar qui va rester avec nous. C'est l'effroi après la publication du rapport Sauvé et ses chiffres terrifiants. Je rappelle, 330 000 personnes victimes d'abus sexuels au sein de l'Église catholique de France depuis 1950. À tout de suite.
RTL Midi.